au 99.1 88.9 CFNJ. C'est La Naudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Édition de ce 6 novembre, on reçoit Marie-Angeline Descadres. Elle est directrice adjointe à la ville de Repentigny. Notre expert politique, Mathieu Bélanger, sera présent. Lui, il sera évidemment mis à contribution sur la scène internationale. Sibi Flamand, le chef de la communauté de Manawan, viendra nous parler. Vous allez comprendre que pas content, M. Flamand. Finalement, Pierre-Luc Bellerose, le maire préfet de la MRC Joliette, sera des nôtres en fin d'émission. Jacques Plante, bien sûr, nous parlera d'un vote de confiance. Et moi, je vous dis, j'ai entièrement confiance en lui. Mesdames, messieurs, bonne émission.
PM, communautaire.
Le protecteur du citoyen constate des lacunes importantes et on en parlera tantôt. Oui, voilà. c'est sous le thème, voilà, je m'étais trompé de papier, voilà, tout simplement. Alors, on va reprendre les feuilles comme il faut. C'est sous le thème « Repositionner l'équité et l'inclusion dans un monde en constant mouvement » que se tiendra dans quelques jours la 4e édition du Forum Vivre Ensemble de Repentigny. Et François Morin en a parlé à Marie-Angeline Descadres. Elle est la directrice adjointe à la qualité de vie et aux relations avec le milieu. Ça prend de la place sur une carte d'affaires, ça. On va écouter cette entrevue avec François Morin.
À la Ville, on estime que c'est quand même une priorité là, de justement poursuivre ce dialogue-là en continu. Puis tu sais, le travail à faire, non, c'est pas péjoratif, hein. Je crois que Repentigny n'est pas à l'abri des changements sociaux qu'on vit tous, en fait, tous et toutes actuellement dans nos organisations, sur le terrain et autres. Puis tu sais, c'est un contexte auquel on n'échappe pas, donc c'est pour ça qu'on trouve important de maintenir cet événement-là, qui n'est pas seulement un événement, là, c'est vraiment un moment clé dans l'année pour pouvoir faire le point sur le vivre ensemble.
Parce que du forum sur le vivre ensemble, et on reviendra pas sur les tragiques événements qui ont provoqué, si on veut, l'établissement là, du forum, mais c'est qu'effectivement, il y a des mesures qui ont été prises là, au fil des années à la lumière des discussions qu'on a eues.
Absolument. Puis effectivement, là, c'est pas, vous savez, c'est pas seulement, comme je disais, un événement, hein, le forum sur le vivre ensemble. C'est une pierre angulaire de notre stratégie pour une ville inclusive, pardon. Puis l'édition de cette année va nous permettre justement de faire le point avec notre collectivité parce que à partir de 2026, là, on va travailler à mettre notre stratégie ville inclusive à jour. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a choisi d'avoir une approche différentes cette année. On a la chance d'être accompagné par le Centre d'expertise collégiale en innovation sociale du Cégep de la Naudière. Puis, on a même la chance là, de collaborer pour l'événement avec des partenaires communautaires vraiment importants comme le Centre d'amitié autochtone de la Naudière, Héritage hispanique du Québec, la Maison des jeunes de Repentigny, le NEO, le Service d'aide à la famille immigrante. On a également le Crédil qui nous aide également et Espace Éducolab. Je vous dirais que on a vraiment tout mis en place pour s'assurer que ce soit vraiment un événement qui est accessible pour tout le monde, hein, parce que cette conversation-là, elle concerne tout le monde. Fait que c'est pour ça qu'on continue à avoir une halte de garderie sur place grâce à la contribution là, du Club Richelieu. Puis on continue également là, à toujours offrir justement là, le repas tout au long de la journée. On a aussi la chance, tu sais, comme je disais, là, on est un peu dans une approche différente cette année, un peu plus innovante. On va avoir la chance d'avoir une animation par Louis-Maxime Lockwell qui aura une approche aussi comme conteur, donc il va pouvoir nous accompagner là-dedans parce que c'est des fois des conversations difficiles aussi. On souhaitait vraiment s'assurer de créer un momentum.
On aurait peut-être dû poser la question au tout début, ça va se tenir sous quel thème et à quel endroit?
Le thème cette année, c'est repositionner l'équité et l'inclusion dans un monde en constant mouvement. Donc, notre intention, c'est vraiment de réfléchir collectivement à notre posture d'allié, puis de voir comment est-ce qu'on peut justement renforcer la cohabitation sociale à travers, en réfléchissant justement à des pistes concernant les défis que posent, par exemple, l'immigration, l'accessibilité universelle, l'itinérance et notamment aussi la montée de la haine et la polarisation. Ça va se tenir au CFP des riverains, donc au 120 rue Valmont, à Repentigny, au même endroit que l'an passé. On a trouvé que c'était aussi un lieu idéal puis fédérateur dans notre communauté. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de maintenir ça en place. Puis c'est une belle collaboration qu'on a avec le Centre de services scolaires des affluents.
Vous avez fait mention d'une liste assez quand même impressionnante là d'intervenants, de participants. C'est donc dire qu'il y a vraiment de l'intérêt, il y a davantage de sensibilisation.
Ben, il y a de l'intérêt. Je pense que tout le monde est préoccupé par le bien-être collectif, par la qualité de vie. La conversation sur l'inclusion, sur la lutte aux discriminations, c'en est vraiment une qui concerne tout le monde. Puis, tu sais, je pense que c'est l'idéal, puis je pense qu'on va vraiment vers ça, là, c'est qu'on a fait évoluer aussi ce momentum-là dans l'année pour pouvoir faire évoluer notre chantier sur le vivre ensemble au fil du temps, là.
Alors, j'imagine qu'on aura l'occasion de se reparler après parce qu'évidemment, il y aura un bilan et ça va être très important.
Oui, à chaque année, on fait non seulement un bilan de cet événement-là, mais un rapport annuel du chantier Vivre Ensemble là, pour vraiment faire état de toutes les différentes actions qui ont été réalisées. Puis, vous savez, depuis le dernier forum sur le vivre ensemble, la Ville a quand même continué justement avec un plan d'action de la stratégie Ville inclusive pour 2025 avec différentes actions piliers puis clés pour pouvoir poursuivre dans ce sens-là. Donc, je vous dirais que c'est un bilan qui va bien au-delà du forum sur le vivre ensemble puis qui est très porteur dans notre collectivité.
Il est 16h14 minutes. Vous savez, ma petite erreur en début d'émission, ben, c'était comme pour vous prouver que chez nous, à CFNJ, ben, c'est pas l'intelligence artificielle. Ben non, pas du tout. Au retour de l'autre côté des publicités, on parle avec notre expert politique, Mathieu Bélanger. Restez là.
Membre un jour, membre toujours. Devenez membre à vie de la coopérative funéraire de Matawini-Montcalm, née de la fusion des coopératives funéraires de Saint-Jean-de-Mata et de Montcalm. 20 $ payables une seule fois. 450-886-3763 et 450-839-3450.
Elle est de retour, plus conviviale et solide, avec tout le contenu de votre radio. L'application CFNJ sur Android et Apple.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Vous êtes fait fort, mais les virus de la grippe et de la COVID-19 aussi. C'est important de vous faire vacciner, surtout si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli ou une maladie du cœur, des poumons ou des reins, si vous êtes enceinte ou si vous avez 65 ans et plus. Dans ces cas, vous êtes plus à risque de complications graves face à ces virus. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, visitez québec.ca/campagne-vaccination. La vaccination, c'est la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
OK, les boys, on met l'événement le plus bel arrêt Hyundai en action. Les Ioniq 6 Prefer, écoutez-moi bien. Vous montez au but avec une offre de location à partir de 1,99% et des paiements hebdomadaires de 110 $. Après, vous déjouez le gardien avec le financement à 0% et jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec sur toutes les Ioniq 6 2025. OK, on exécute le plan de match puis on rend visite à son concessionnaire Hyundai avant que les rabais diminuent en 2026.
Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Saint-Didas, Notre-Dame-de-Lourdes, Joliette, Saint-Gabriel-de-Brandon.
CFNJ 99.1-88.9.
Ici, la musique américaine, on laisse ça à Trump au 99.1-88.9 CFNJ. C'est la Naudière PM avec Michel Arnois.
Lanaudière PM, politique internationale.
Il est 16h17 minutes. Des sondages et même des scrutins dans certains États indiquent que la cote de popularité de Donald Trump, eh bien, elle baisse. J'en ai discuté avec notre analyste et expert politique, Mathieu Bélanger. On parle à Mathieu Bélanger, notre analyste politique. Mathieu, il y a des sondages qui sont assez révélateurs concernant Donald Trump.
Oui, les sondages continuent à être publiés de façon régulière aux États-Unis. On sait que les firmes de sondage ne manquent pas de travail là-bas, puisqu'on est plus ou moins perpétuellement en campagne électorale ou en préparation de campagne électorale ou ensuite campagne électorale. Bref, il y a toujours de l'action politique. Des sondages qui paraissent dans un contexte très particulier, celui dans lequel on est, c'est-à-dire avec la poursuite du shutdown du gouvernement américain, de la fermeture du gouvernement américain par manque de fonds, causé par le fait qu'il n'y a pas eu une entente entre les républicains et les démocrates au Congrès pour adopter un nouveau budget. On vient de dépasser un record historique de longévité. Là, ça fait 36 jours que le gouvernement est fermé et pour l'instant, les problèmes continuent. Donc, des firmes de sondage qui publient, évidemment, selon une firme à l'autre, il y a des résultats un peu différents, mais qui pointent tous dans la même direction. C'est-à-dire que Donald Trump est de façon générale impopulaire, que les gens désapprouvent, c'est plus ça la question qui est posée dans les différents sondages publiés ces jours-ci, désapprouvent sa gestion de l'État, sa gestion du gouvernement. On est, puis là, avec la petite variation d'une firme de sondage à l'autre, environ à 55% des gens qui désapprouvent, 40-45% des gens qui approuvent. Donc, entre 10 et 15 points d'écart négatif entre les personnes qui approuvent et celles qui désapprouvent.
Mais Mathieu, Mathieu, ça s'est traduit également par des votes au cours des derniers jours, des dernières journées, là.
Exactement. Donc, mardi, qu'il y avait des votes quand même importants dans quelques endroits aux États-Unis, dans certains États, au niveau local, au niveau de la Californie, sur un référendum pour permettre de redécouper la carte électorale pour contrecarrer les redécoupages de cartes électorales, notamment en Floride, dans l'État de New York, aussi, pardon, dans la ville de New York, pardon, à la mairie. Et dans ces diverses élections-là, les démocrates ont très bien fait. Donc, en termes de sondage, en termes d'élections réelles, concrètes, présentement, ça va quand même plutôt bien pour les démocrates, ou du moins, peut-être qu'il faut dire plus correctement comme ça, ça va mal pour les républicains qui sentent une insatisfaction présentement, alors que les citoyens américains sont confrontés justement à des difficultés qui sont les problèmes qui ne sont pas réglés depuis l'arrivée de Donald Trump malgré ses promesses et d'autres problèmes qui arrivent notamment en conséquence de la fermeture du gouvernement pendant si longtemps.
Ça donne de l'espoir aux gens qui veulent que le Congrès reprenne du service et que le Congrès puisse finalement diriger ce pays-là.
Et il y a des critiques effectivement vers le Congrès. Parfois même chez les républicains qui craignent si on le Congrès s'efface beaucoup, si on laisse les républicains, le Congrès laisse Donald Trump agir un peu comme il veut et accroître le pouvoir de la présidence, ben qu'un jour, lorsqu'il y aura une présidence démocrate, ben que les rôles soient inversés, que les républicains de ce futur hypothétique-là se retrouvent désemparés par rapport à un président démocrate tout puissant. L'espoir, évidemment, pour les gens qui sont critiques de Donald Trump, c'est les élections de mi-mandat. On peut présumer que d'ici l'an prochain, au niveau du Congrès, il n'y aura pas beaucoup d'actions pour contrecarrer Donald Trump. Au niveau des tribunaux, puis là, il y a un procès important présentement à la Cour suprême concernant le pouvoir ou pas de Donald Trump concernant les droits de douane.
Oui, ça pourrait changer la donne, ça, si les gens de la Cour suprême donnent raison vont à l'encontre de Donald Trump, en fait.
Oui, parce que ce serait un des éléments importants de son programme politique à Donald Trump, les droits douaniers, qui seraient contrecarrés par la Cour suprême. Du moins, au niveau de la symbolique, ce serait excessivement fort. Au niveau, il y a un signe de l'indépendance de la Cour suprême. Non pas que la Cour suprême donne raison à Trump qu'elle est dépendante, mais certainement que si elle donne tort, elle montre cela une indépendance. Concrètement, est-ce que ça va changer? Par contre, là, ça resterait à voir. Parce que c'est, comme je le disais, c'est gros dans la politique américaine. S'il ne peut plus faire ça, s'il ne pouvait pas faire ça, ça soulève énormément de questions et ça fragiliserait beaucoup Donald Trump dans ses interactions avec les autres pays. Mais est-ce qu'il accepterait ce jugement-là? ça reste à voir. Puis là, il y a encore beaucoup d'hypothétiques à voir encore les prochains jours.
Parce que plusieurs disent qu'ils trouveraient un autre moyen d'imposer ces tarifs. Merci beaucoup, Mathieu Bélanger. Ça fera pas pleurer personne si Donald Trump perd un peu de popularité. Laissez-moi vous le dire. J'aimerais vous parler du dossier des pierres tombales des motards dans les différents cimetières. Même à Joliette, il y a au cimetière Saint-Pierre une pierre tombale du groupe de motards Outlaws, sur laquelle, bon, on voit toutes sortes d'informations disponibles. On voit le logo des Outlaws sur le côté droit, entouré d'un crâne. Il y a les noms et les surnoms qui sont assez spéciaux. Hein? Surnom comme Gros Sale qui est indiqué sur la pierre tombale. Moi, j'aimerais mieux Vieille Pantoufle ou Petit Paquet, mais ça, c'est moi. Mais voilà pour les surnoms qui apparaissent. On a posé la question au diocèse de Joliette, savoir quelles étaient les règles. Et ils ont un article 18 d'un règlement des cimetières qui date de 2019 qui indique que tout dessin, sculpture, buste, pièce ou statue devant apparaître sur le monument ou ouvrage funéraire ça a dû être approuvé au préalable par la corporation. On parle sûrement de la corporation du diocèse. Le concessionnaire doit en pareil cas soumettre au préalable des plans qui montrent le monument à être installé aux fins d'approbation. Mais ça date de 2019. Alors, le monument en question des Outlaws, lui, date de 1984 et il n'est pas régi par la même réglementation. Alors, on n'est pas en mesure du côté du diocèse de définir précisément le contexte qui entoure le contenu qui se retrouve sur cette pierre tombale. Alors, c'est la position du diocèse de Joliette. J'aurais aimé ça jaser avec ces gens-là. C'est toujours agréable de pouvoir badiner avec les gens du diocèse, quoique ce sont des gens très sérieux, il faut le mentionner. Il est 16h24.
Lanaudière PM, Première Nation.
Eh bien, le protecteur du citoyen du Québec craint des reculs quant au respect des droits des Premières Nations dans les services publics. Le chef de Manawan, Sibi Flamand, n'en revient pas de la lenteur que met le gouvernement à appliquer les recommandations de la Commission Vient. Je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Il y a le protecteur du citoyen qui constate des lacunes préoccupantes quant à la mise en place des recommandations formulées par la Commission Vient. Ça se passait en 2019. Faut dire qu'il y a eu également un rapport de suivi en 2023, M. Flamand. Ça avance pas vite, n'est-ce pas?
Je suis indigné de la part de l'inaction du gouvernement du Québec par rapport à la mise en application, à la mise en œuvre des appels à l'action qui ont été mis dans le cadre de la commission Vient. Puis je pense que on voit la position du Québec par rapport à ses relations avec les Premières Nations, c'est vraiment questionnable. Puis je me demande encore comment va-t-il faire pour la suite des choses à la suite du dépôt du rapport de suivi que le protecteur du citoyen a déposé aujourd'hui.
Pour le bénéfice des auditeurs, les priorités qui restaient à concrétiser il y a 2 ans, c'était, on voulait enchâsser la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. On voulait une stratégie à long terme pour combler les besoins de logement en milieu autochtone, reconnaître les services de police autochtones en tant qu'entité autonome, assurer la sécurité des femmes autochtones et le respect de leurs droits à l'intégrité physique et à l'égalité. Il y a l'accès aux services de justice également pour la population du Nunavik. Bref, dans ces éléments-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé, M. Flamand?
Je dirais qu'on est encore, qu'on est en train de stagner encore, que le gouvernement du Québec est en train de faire le statu quo par rapport aux droits des peuples autochtones, même encore là. On a fait des démarches tant du côté des Premières Nations, à l'Assemblée des Premières Nations, de définir, de développer la co-construction de différents projets de loi, mais encore là, aucun des amendements, des projets d'articles qu'on avait proposés n'ont été aucunement considéré. Et puis je pense qu'avec ce qu'on vient de voir avec le rapport du protecteur des citoyens, c'est... On voit clairement comment ça s'enligne là, actuellement.
Qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses, selon vous?
Je pense que ce serait de revoir un dialogue entre le premier ministre, le gouvernement du Québec et l'ensemble des Premières Nations, les peuples autochtones au Québec. Je pense que c'est dans l'intérêt qu'on, lorsqu'on parle de réconciliation, de rapprochement, qu'il y ait un vrai dialogue, qui non seulement un dialogue asymétrique de sourds là, tel qu'on voit actuellement.
Comment vous vous entendez avec le ministre?
Ben, c'est genre, il nous écoute, mais quand on fait des demandes, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est un gros problème.
Il n'y a rien qui bouge.
Malheureusement, il n'y a rien qui bouge.
On voulait abolir et prévenir toute forme de discrimination à l'égard des Premières Nations et des Inuits dans les services de santé et les services sociaux. Ça évolue un petit peu, ça, non?
Du côté de ces services-là, ça fait ma maintes reprises qu'on demande au gouvernement du Québec, notamment au ministre qui agit sur les relations des Premières Nations Inuit, ministre Lafrenière, de reconnaître le principe d'Ed Joyce, mis encore là, c'est encore la sourde oreille de leur côté, de faire pression de ce côté-là.
Bon, il reste qu'il y a un manque de reconnaissance là, que vous décriez à chaque fois. Là.
Malheureusement, c'est le constat qu'on fait, puis, et ça depuis plusieurs années. Puis même avant même le décès de Joyce, là, on demandait que nos droits soient respectés, mais bon, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement attend de plus. Est-ce que c'est un autre cas de Joyce, un autre enjeu qui va encore être mis sur la face des Québécois ou la face des gouvernements? Ça, c'est... On ne veut pas en arriver là, puis je pense que le Québec non plus ne veut pas revoir ça.
Dans votre quotidien, dans semaine après semaine, est-ce que c'est plus vous qui faites des démarches vers le gouvernement ou de temps à autre, ces gens-là essaient de vous rejoindre?
Généralement, nous, ce qu'on fait, c'est concernant le dossier de la route, par exemple, où, on a fait différentes représentations auprès du ministère, auprès des fonctionnaires, mais il n'y a rien qui était avancé. Puis on finalement se tourne vers les tribunaux pour faire entendre nos voix, puis surtout défendre nos droits. Ça, c'est le dernier recours qu'on utilise pour justement se faire entendre, alors que les gouvernements ne nous écoutent pas.
Il reste que vous avez beaucoup de patience, M. Flamand. Merci beaucoup de votre intervention.
Je vous remercie.
On parle au chef de la communauté de Manawan, Sibi Flamand. Alors voilà, on se dirige maintenant vers les informations régionales avec Pierre Jubinville. De l'autre côté, on va parler à Pierre-Luc Bellerose. Il conteste, du moins la MRC de Joliette conteste la décision de la Commission de protection du territoire agricole. On va en parler avec lui. Restez là, mesdames, messieurs.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Alors, ça nous indique qu'il y a beaucoup de gens sur la route. Cependant, quand on regarde les caméras, ça roule quand même pas si mal. Sur la 40S vers Repentigny, là, ça circule assez bien pour aller du côté du pont de la 40, du pont Charles de Gaulle. Ça circule quand même assez bien. Là où c'est plus compliqué, c'est jonction 640-40. C'est assez congestionné, là, que ce soit de côté, dans les deux directions de la 640, finalement, quand on arrive pas trop loin de la 40-640. Terrebonne, ça roule assez bien, sauf concernant la jonction 25-440. Même le pont Payant, ça, c'est pas si mal. C'est juste de l'autre côté, là, quand une fois qu'on traverse la rivière, que ça ralentit un peu. Voilà pour la circulation.
Le Super Radio FNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, L'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IGA Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, L'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar. dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché métro Imerie, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Du lundi au vendredi, entre 11h et 14h, la Fromagerie Victoria vous propose un délicieux menu midi. Soupe, repas et breuvages à partir de 14 $. Rapide et abordable, la solution pour vos dîners pressés. Fromagerie Victoria, 791 rue Gadoury, à Berthierville.
Vous avez un commerce et vous vous demandez ce qui se passerait si vos équipements brisaient? Promutuel Assurance est là pour ça. Faites comme plus de 60 000 entreprises au Québec. Profitez d'un allié de confiance là pour ça. Promutuel Assurance est là, 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 là.
Diane Monette, audioprothésiste, est à votre écoute depuis 1997. Son équipe est à l'écoute de vos besoins afin de prendre soin de vous adéquatement. Elle vous offre des services professionnels ainsi que des produits audioprothétiques appropriés à la fine pointe de la technologie afin de répondre à tous vos besoins auditifs. Vous croyez avoir besoin d'un test d'audition? Le dépistage auditif est offert sans frais jusqu'au 31 décembre 2025. Diane Monette, audioprothésiste, 136 Boulevard Antonio Barrette à Notre-Dame-des-Prairies. Prenez rendez-vous maintenant au 450-759-9939.
OK, les boys, on met l'événement le plus bel arrêt Hyundai en action. Les Ioniq 6 Prefer, écoutez-moi bien. Vous montez au but avec une offre de location à partir de 1,99% et des paiements hebdomadaires de 110 $. Après, vous déjouez le gardien avec le financement à 0% et jusqu'à 11 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec sur toutes les Ioniq 6 2025. OK, on exécute le plan de match puis on rend visite à son concessionnaire Hyundai avant que les rabais diminuent en 2026.
Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Ici Pierre Jumainville et les actualités. Le gouvernement Carney fera face dans les prochaines heures à deux votes de confiance en lien avec son budget présenté mardi. Le premier vote sur le sous-amendement des conservateurs doit se tenir d'ici la fin de la journée et un autre sur l'amendement principal du Bloc québécois est prévu demain. Comme les deux motions rejettent le budget, le gouvernement tomberait et le pays se dirigerait vers une autre élection générale. Mais il suffit que seuls deux députés indépendants appuient les libéraux pour que le gouvernement survive à ses votes. Des abstentions pourraient aussi faire la différence. La décision de la MRC de Joliette de porter en appel les conclusions de la Commission de protection du territoire agricole sur le site d'enfouissement de Saint-Thomas est à la fois un enjeu économique et de santé publique. La CPTAQ refuse que le site soit agrandi. Il aurait atteint sa pleine capacité dans 6 ans. Le préfet de la MRC et maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, précise que plusieurs erreurs de droit et de fait ont été commises par la Commission.
Donc, il y a un volet financier important. Puis qu'on le veuille ou non, ben c'est une question aussi de santé publique. Donc nous, de notre côté, puis il faut ramener ça à la base, c'est uniquement un changement d'usage du terrain. Donc la MRC voulait adopter un règlement pour faire passer ça d'agricole à industriel. Par contre, il faut rappeler qu'ultimement, c'est le gouvernement du Québec qui devra se positionner et qui devra fort probablement aussi aller là, avec un décret pour statuer là, sur le choix du site.
Le protecteur du citoyen du Québec craint des reculs quant au respect des droits des Premières Nations dans les services publics. Le chef de Manawan, Sibi Flamand, n'en revient pas de la lenteur que met le gouvernement à appliquer les recommandations de la commission Vien datant de 2019. Marc-André Dowd s'est dit inquiet en raison principalement d'un manque de financement et de l'absence d'une stratégie globale.
Indigné de la part de l'inaction du gouvernement du Québec par rapport à la mise en application, à la mise en œuvre des appels à l'action qui ont été mis dans le cadre de la commission Vien. Puis je pense que on voit la position du Québec par rapport à ses relations avec les Premières Nations, c'est vraiment questionnable. Puis,
le Parti libéral du Canada demande à la commissaire aux élections fédérales de déclarer illégale la campagne de sociofinancement lancée par la candidate bloquiste dans Terrebonne, Nathalie Sinclair-Desgagnés, pour porter sa cause en Cour suprême. Rappelons qu'elle a perdu par une seule voix contre la libérale Tatiana Auguste. La Cour supérieure a maintenu ce résultat la semaine dernière, malgré des irrégularités qui ont pu coûter la victoire à l'ancienne élue. Le gouvernement Legault fixe sa cible de résidents permanents à 45 000 par année jusqu'en 2029. Il s'agit de la diminution la plus modérée des trois scénarios qui étaient sur la table.
Québec souhaite accueillir annuellement 15 000 résidents permanents de moins qu'en 2024 et 2025.
On vise 45 000.
Afin, selon Jean-François Roberge, de diminuer la pression à plusieurs niveaux.
Sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics, sur l'accès au logement.
Le ministre de l'Immigration choisit ainsi le plus modéré des scénarios envisagés pour éviter, dit-il, de nuire à la main-d'œuvre en région.
Un plus grand nombre de travailleurs étrangers temporaires dans nos régions pourront accéder à la résidence permanente.
Il abolit par ailleurs le programme d'expérience québécoise qui sert de voie rapide vers la résidence permanente au profit du programme de sélection des travailleurs qualifiés.
On sélectionne qui? Ben des gens qui parlent français, qui travaillent au Québec, qui sont diplômés au Québec.
Le ministre Roberge vise également pour le Québec une diminution de 13 % sur 4 ans des seuils d'immigration temporaire.
C'est évident que cette réduction-là doit s'opérer à Montréal et à Laval.
Philippe Rodrigue, Como Cogeco Nouvelle, Québec.
Le monument du motard des Outlaws, Daniel Savoie de Joliette, assassiné en 1984 lors d'un règlement de compte, ne tombe pas sous les nouvelles dispositions du diocèse de Joliette en vigueur depuis 2019. Depuis cette date, tout dessin, sculpture ou statue doit être approuvé au préalable par la corporation du diocèse. Le média Présence révèle que sur le côté droit de la pierre tombale, les mots « Outlaws et Canada » entourent un crâne et à gauche sont gravés les noms et les surnoms de trois personnes décédées entre 1984 et 1990. Pour d'autres nouvelles, rendez-vous à CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM. Politique municipale.
On vous rappelle qu'on est toujours en direct du studio Joliette-Nissan. J'aimerais vous parler du dossier du site d'enfouissement de Saint-Thomas. La MRC de Joliette qui conteste la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Rappelons que Dépôt-Rive-Nord, une filiale d'EBI, avait projeté d'agrandir son lieu d'enfouissement parce qu'il aura atteint sa pleine capacité dans 6 ans. Or, la Commission de protection du territoire a refusé que le site soit agrandi. Écoutez, la MRC Joliette conteste cette décision récente de la commission qui refuse que le site soit agrandi. Et le préfet de la MRC et maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose, s'est expliqué. On parle à Pierre-Luc Bellerose, il est le maire de Joliette, également préfet de la MRC Joliette. Monsieur Bellerose, la MRC conteste la décision récente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec qui refuse que le site d'enfouissement de Saint-Thomas soit agrandi. Au départ, vous vouliez pas contester, mais là, finalement, vous avez contesté cette décision. Dites-moi pourquoi.
Ben, nous croyons qu'il y a des erreurs de droit et de fait, puis vous comprendrez qu'étant donné que nous sommes dans ce processus-là, je vais être prudent là avec les démarches juridiques actuellement en cours. Par contre, la MRC, effectivement, là veut porter un appel devant le tribunal administratif parce que les recours sont maintenant là épuisés au niveau de la CPTAQ qui a rendu là, son jugement dans les dernières semaines.
On sait que la Commission de protection du territoire vous invite à vous tourner vers un autre site à Sainte-Geneviève-de-Berthier, mais ça semble pas être une bonne solution pour vous, là.
C'est-à-dire que la CPTAQ est quand même dans le même sens que la MRC à plusieurs niveaux. Puis je pense qu'elle souligne que la MRC a fait son travail. Elle souligne aussi quelque chose de très important, c'est que l'agrandissement du site actuel doit se faire au pourtour. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a le site de Saint-Thomas, effectivement, qui est en zone agricole, où si on se tourne du côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier, qui est dans la MRC voisine, qui est en zone blanche, par contre, il n'y a pas plus d'acceptabilité tant au niveau de la population que des élus de ce côté-là. Et puis nous, si jamais c'était en territoire là, de la MRC de Dautré, ben à ce moment-là, on se retrouverait avec les mêmes contraintes, c'est-à-dire avec le transport et puis aussi avec certaines odeurs, sans, par contre, avoir droit aux redevances ou aux avantages là, financiers qui sont liés à une entente avec DLN, parce qu'il faut le rappeler, notamment du côté de Saint-Thomas, on n'a pas de taxes pour les matières résiduelles, on a accès à l'éco-centre, il y a des redevances importantes, on a une entreprise qui est implantée aussi de ce côté-là avec des emplois quand même de bonne qualité, donc il y a un volet financier important, puis qu'on le veuille ou non, ben c'est une question aussi de santé publique. Donc nous, de notre côté, puis il faut ramener ça à la base, c'est uniquement un changement d'usage du terrain. Donc, la MRC voulait adopter un règlement pour faire passer ça d'agricole à industriel. Par contre, il faut rappeler qu'ultimement, c'est le gouvernement du Québec qui devra se positionner et qui devra fort probablement aussi aller là, avec un décret pour statuer là, sur le choix du site.
Pensez-vous...
Donc, c'est pas la ville ou la MRC, non.
Pensez-vous que vous allez réussir à faire renverser la décision de la CPTAQ?
Ah, écoutez, moi, de mon côté, je suis relativement confiant pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Puis de toute façon, je le répète, là, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce genre de projet-là pratiquement nulle part. Et puis, on doit les enfouir. Donc, oui, de l'autre côté, dans notre plan de gestion des matières résiduelles, il y a des initiatives pour tenter de diminuer le tonnage puis avoir des nouvelles pratiques. Mais à court terme, parce qu'on sait que l'entente se termine en 2032, puis c'est pour ça aussi qu'on y va un peu, là, je vous dirais, quelques années d'avance, parce que c'est un processus qui est quand même long. On avait l'adoption du règlement, par la suite un BAP, par la suite un décret du gouvernement. Donc, quelle ça, la fin de tout ça, je suis pas en mesure de vous le dire, mais nous, on veut continuer à faire entendre notre voix parce que c'est quand même au niveau économique très important. Et puis, la CPTAQ est d'accord avec nous, puis elle ne remet pas en question non plus toutes les études qui ont été réalisées. Puis, il y a eu des efforts depuis la première mouture présentée par DRN. On le sait qu'il y a eu des changements pour diminuer la superficie de l'agrandissement. Et puis, il y a aussi des efforts pour préserver le potentiel acéricole à 90%. Et puis, même l'UPA a reconnu là, la faible qualité là, de cette terre-là. Donc, il faut aussi mettre en contexte là, certains éléments. Mais on est conscient en même temps que la CPTAQ est mandatée pour défendre là, l'intégrité des terres agricoles. Donc, ça, on ne remet pas ça en question. Par contre, il faut mettre des choses en contexte et en perspective.
Il y a un nouveau maire du côté de Saint-Thomas, Mario Rondeau. En avez-vous parlé avec lui? Avez-vous eu cette chance-là?
Ben, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec lui avant son élection. Puis moi, vous savez, comme préfet, je suis le porte-parole du Conseil des maires de mes différents collègues et homologues là, du territoire. Donc, je vais toujours représenter la volonté aussi du Conseil des maires, tant et aussi longtemps que j'en sais le préfet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 nouveaux maires aussi qui intègrent le Conseil sur 10. Donc, c'est quand même assez majeur. Puis, dès notre prochaine rencontre, le prévu dans les prochains jours, bien, il y en sera question, ainsi que des autres orientations. Moi, mon mandat, c'est vraiment d'être le porte-parole puis de représenter la volonté de mes collègues.
Mais d'ores et déjà, connaissez-vous un peu la position de Mario Rondeau sur le dossier?
Je pense que M. Rondeau, de façon légitime, avait posé des questions. Il y a un comité qui s'était créé, puis moi, je l'ai toujours mentionné, je pense que c'est sain dans une démocratie qu'il y ait des comités comme ceux-là de citoyens ou de gens intéressés qui viennent poser des questions. Puis moi, honnêtement, à la MRC, ça s'est toujours fait harmonieusement. M. Rondeau avait posé des questions, sa conjointe était aussi impliquée là, dans le groupe de citoyens, donc effectivement, il s'était positionné, peut-être en défaveur, mais j'ai toujours senti quand même ouvert, puis je pense qu'on a l'occasion d'en discuter encore plus en profondeur, donc on verra pour la suite des choses, considérant aussi la dernière décision, parce que la décision a été rendue dans le contexte électoral, donc on va voir là, quelle sera sa position, puis la position du Conseil des maires aussi. Là.
Le dossier qui sera à suivre, Pierre-Luc Bellerose, merci beaucoup. De l'autre côté des publicités, on parle avec Jacques Plante de vote de confiance et je l'ai dit en début d'émission, je lui fais entièrement confiance.
Vous êtes propriétaire d'une entreprise et avez à cœur de bien la protéger?
ProMutuelle Assurance est là pour ça. Faites comme plus de 60 000 entreprises au Québec. Profitez d'un allié de confiance là pour ça. ProMutuelle Assurance est là, 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 là.
Son X Plus Joliette est fier de vous accueillir au 58 rue Babi depuis 2005. Fondée en 1981, notre entreprise met à votre service de l'expertise en système de son, cinéma maison, audio multipièce, domotique, sécurité, caméra de surveillance, réseau informatique, téléviseur et installation professionnelle. Nous offrons des solutions sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison ou de votre entreprise. Faites confiance à Son X Plus Joliette, toujours prêt à surpasser vos attentes. SonXPlusJoliette.com.
Si vous voulez partir, on va barrer les portes. Salut, c'est la bottine souriante. Si comme nous, vous êtes du monde de party et que vous voulez un retour bien accordé, n'oubliez pas d'appeler l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS.
Et si vous aimez autant veiller tard que veiller sur le monde, ben on est toujours à recherche de bénévoles.
Si vous voulez partir, Nez Rouge vous ramène à la porte.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Pendant la liquidation totale, prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction avant location 60 mois à partir de seulement $89 plus taxes par semaine sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
Au concert du dimanche à CFNJ, Michel Fugain.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Le concert du dimanche, dimanche matin, 7h à CFNJ.
À CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Jacques Plante, comment allez-vous?
Michel Lanois, bonjour, bonne fin d'après-midi tout le monde.
Jacques Plante, comment vas-tu? Écoute Jacques, avec le fédéral, c'est du 2-1, on perdra pas, mais peut-être un peu, mais pour 2 votes de confiance, non pas 1.
Oui, et ça, c'est un peu...
Expliquez-nous comment ça marche.
J'en parlais mardi avec Claude en disant, bon, les partis d'opposition font les gorges chaudes, là. On va regarder le budget, puis on laissait présager que, oui, peut-être, on va voter pour ou contre. Parce que s'ils votent contre le budget, on s'en va en élection. Oui. Le gouvernement est défait parce qu'il est minoritaire.
Mais là, en ayant 2 votes de confiance, ils ont 2 fois plus de chances de se faire sortir.
Ce qui arrive, Michel, règle générale, c'est qu'un gouvernement, quand il dépose son budget, il y a ce qu'on appelle des sous-amendements qui sont proposés par les partis d'opposition. Et ça, habituellement, c'est pas traité comme un vote de confiance. Okay. Le vrai vote de confiance du budget qui a été déposé cette semaine, plus précisément mardi, aura lieu dans la semaine du 17 novembre.
Okay.
Mais lorsque...
Là, ils vont voter pour le budget, là.
Ouais, le budget globalement dans sa globalité, si tu veux.
Mais là, ils vont en avoir un autre après-midi.
Là, ce qu'ils font, c'est que Carney, je commence à l'aimer, lui, je disais ça à Pierre Jupinville, je commence à l'aimer, le Mark Carney, notre PM, parce que il trouve qu'il y a de la colonne, puis lui, il a trouvé des couilles. Il y en a qui devraient s'en acheter chez Walmart ou ailleurs, là. Mais lui, il y a de la colonne, puis il y a des couilles, parce que là, il met la pression sur les partis d'opposition. Parce que sur les 2 amendements qui ont été déposés, l'un amendement déposé par les conservateurs, l'autre par le Bloc québécois, il dit, moi, j'en fais des votes de confiance.
Oh.
Alors là, il y a un premier vote qui va avoir lieu. Selon moi, ça va dans le bout de 18-19 heures là, à la Chambre des communes. C'est sur l'amendement qui a été déposé par les conservateurs. Eux, globalement, là, ce qu'ils demandent, c'est d'abaisser le déficit à 43 milliards au lieu de 78, de couper davantage dans les dépenses gouvernementales, éliminer la taxe sur le carbone pour les industries. On sait déjà que ce vote-là va pas passer parce que le chef par intérim du nouveau Parti démocratique, lui, il a dit que les 7 membres de son caucus vont voter contre le sous-amendement des conservateurs. Donc, pour aujourd'hui, là, il y a pas de danger. Le deuxième vote de confiance, c'est demain. Celui-là porte sur la motion du Bloc québécois. La motion du Bloc québécois dit que le budget est nuisible pour le Québec. Alors, on parle de l'absence de l'augmentation de l'indexation du transfert canadien en santé à 6 % et l'augmentation équitable à la sécurité de la vieillesse. C'est un cheval de bataille qui est long là depuis longtemps du Bloc québécois. Puis moi, je peux pas être contre ça, hein, la sécurité de la vieillesse.
Mais ce que je viens de comprendre, là, c'est qu'il y en aura finalement 3 votes.
C'est ça. C'est qu'il va y avoir deux votes sur les amendements et le vote final.
Donc, 3 au total.
Exactement. Et le gouvernement libéral a dit, on fait tous avec ça des votes de confiance. Wow. Alors, si demain, exemple, que la motion du Bloc passerait, on s'en irait en élection, le gouvernement serait défait.
Mais mon avis, Jacques, les toilettes sont bien occupées. Durant ces votes-là.
Oui, puis tu sais, c'est une gang des vrais pisseux, là, parce que on le sait, avec la pandémie, quand il y a eu la pandémie, Michel, les députés étaient comme nous, on est tous cloîtrés dans nos domiciles. Ouais. On peut voter avec notre téléphone intelligent, on peut voter avec notre ordinateur. Alors là, ils me font pas croire que avant ça allait bien, là, quand ils étaient juste en chambre. Il y allait au petit coin, puis le vote se passait. Tandis que là, où peu importe où ils vont être, ils peuvent avoir accès à un instrument informatique puis de voter.
Mais ouais, là, c'est de moins en moins valable comme excuse.
Ben là, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des absents. Faut pas oublier aussi que le transfuge de cette semaine...
La grippe est forte.
Qui est parti, oui, c'est ça. Oui. Puis le va vite, hein. Ça se peut que le va vite pogne vite, là, dans la Chambre des communes. Mais, tu sais, il y a eu un transfuge cette semaine des conservateurs vers les libéraux. Oui. Il a traversé la Chambre.
Attendez-vous d'autres?
Lui, ce qu'il a laissé présager, il a répondu poliment aux journalistes. Oui, il y en a peut-être d'autres, mais je les laisse faire leurs gestes ou répondre à vos questions. Alors là, j'ai l'impression qu'à l'intérieur des officines du Parti libéral du Canada, on sait déjà qu'il y a des gens qui vont peut-être s'abstenir tout simplement de voter et qui sont membres du Parti conservateur.
Pensez-vous, s'il y a d'autres transfuges, que ce sera du Parti conservateur ou des néo-démocrates?
Ça va du Parti conservateur, j'ai l'impression. Oui. Oui, j'ai l'impression que ça serait ça, parce que là, il manquait 3 sièges au gouvernement pour être majoritaire. Là, il en manque 2.
Mais moi, s'il y en a un qui traverse,
oui,
ça veut dire que c'est à l'égalité.
Non.
Parce que les conservateurs en perdent un, les libéraux en gagnent un, il est là notre chiffre 2. Non?
Non.
Il me semble qu'on tomberait à égalité à ce moment-là.
Il y a 343 sièges aux communes. Les libéraux en ont maintenant 170.
C'est un exercice de calcul, mesdames, messieurs.
Non, mais tu sais, il était 169, là.
Oui.
Pour la majorité, ça prend 172.
Ah, OK.
OK. Là, ils sont 170. Il en manque 2.
170, 172, OK.
Tu vois?
Alors, s'il y en avait un de plus, ça ferait 171, non? Peut-être.
Non, mais tu peux, t'as pas besoin de compter du côté des conservateurs. Là. Ce que faut que tu comptes, les sièges,
c'est le total.
C'est du côté des libéraux.
J'ai jamais été bon en maths.
Non, je le sais, il a coulé. Imaginez ce gars-là, c'est lui qui me payait avant. Il ne sait pas compter.
J'ai jamais payé, c'était la comptable qui
faisait
ça.
Oui, c'était Catherine. Non. Une chance que Catherine était là.
Non, moi,
il disait tantôt que c'était un gars de confiance, mais Michel Lanois, tu ne peux pas compter sur lui.
Non, mais écoutez, là, chacun sa faiblesse. Moi, c'est le français que c'était bon, ouais.
Oui,
bah, ouais,
oui,
bon.
Oui, oui.
Mais comme vous, d'ailleurs.
Et le birette va bien, d'ailleurs, c'est ça.
Écoutez, Jacques, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'action sur la scène politique fédérale. Ouais. C'est pas ennuyant, là.
Mais je pense pas qu'on doit avoir de peur d'aller en élection. Je pense que ça va passer. Puis ils le savent très bien que personne va avoir des élections. Il y a bien d'autres problèmes à régler que ça.
Absolument. Hein? Bon, je pense que...
Ouais, puis au prix que coûte une élection, là, on peut mettre cet argent-là ailleurs.
Puis il y en a un paquet qui sont pas prêts à retourner, là.
Exactement,
aussi.
Exactement.
Merci, Jacques Plante.
Bienvenue, Michel. Salut.
Je savais que je pouvais vous faire confiance. Mais pour les mathématiques, on repassera.
On repassera.